5h43 en temps universel. Tout de suite, les sports. Bonjour Olivier Prom.
Bonjour Julien Coquelroem, bonjour à tous.
Rien que du football au programme avec ce dimanche le dénouement des demi-finales de la Coupe de la Confédération.
Jouera ou jouera pas ? Ce soir au Maroc doit se tenir le match, hein, vous attendiez pas celle-là. Ouais. Le match entre la RS Berkane et le tenant du titre, l'USM Alger. Mais on ne sait toujours pas si les Algériens vont le disputer, vous voyez, ils sont comme ça. Il y a une semaine, on s'en souvient, à l'aller, les Marocains avaient refusé de jouer après la confiscation de leurs maillots par les autorités algériennes, car ceux-ci étaient siglés, les maillots, hein, de la carte du Maroc, incluant le Sahara occidental. L'Algérie, elle, reconnaît ce pays. Alors finalement, la CAF a donné dans la semaine la rencontre gagnée sur tapis vert aux Marocains, 3-0. Et pour ce match retour, l'USMA a prévenu, si Berkane porte à nouveau son maillot, on jouera pas. Et pendant ce temps-là, sereinement, la ville, elle, de Berkane, et les supporters du club se tiennent prêts. Cette histoire politique qui s'invite dans le sport a renforcé leur engouement. Victor Moria.
Devant le stade municipal de Berkane, où les joueurs de l'USM Alger sont en train de reconnaître la pelouse, Ahmed, supporter de la RSB, ne perd pas l'objectif de vue, atteindre la finale.
Qu'on joue ou qu'on ne joue pas, l'essentiel c'est qu'on soit qualifié. Et si le match a lieu, on sait que Berkane peut gagner et on a confiance en eux.
Son comparse, Redouane, un brin moqueur, n'oublie pas les péripéties de la semaine dernière.
Bienvenue à l'USM Alger. On est allé chez eux et ils nous ont piétinés, mais nous on est loin de la politique, on joue au ballon comme des hommes. Ici c'est Berkane les gars, bienvenue à vous, on va vous apprendre l'hospitalité marocaine et que Dieu vous pardonne. Inch'Allah, on leur met 3-0 s'ils ne se retirent pas.
À quelques centaines de mètres de là, la boutique de la RSB, gérée par Brahim Rabia, est prise d'assaut.
Il y a un engouement de la part de la communauté étrangère à l'échelle nationale et aussi chez nous à Berkane. Les maillots, les survêtements, les shorts, les vestes, tout. Dieu soit loué, il y a un vrai engouement.
Match ou pas match, ce soir, au Maroc, le vainqueur est certainement la cote de popularité de la RSB. Victor Moria, Berkane, RFI.
Berkane, USMA, 19h TU, en principe, juste avant l'autre demi-retour à Koumassi, au Ghana, où le Dreams FC reçoit le Zamalek 0-0 à l'aller au Caire.
Comme chaque jour depuis une semaine, c'est l'heure de parler du prix Marc-Vivien Foé.
Tic-tac, tic-tac. Le 2 mai prochain, oula, ça approche, hein.
Ouais.
Plus que 4 dodos. 4 pour les impatients. Les 3 finalistes de ce prix RFI France 24 qui récompense chaque saison le meilleur footballeur africain de la Ligue 1. Ces 3 finalistes seront connus. Pour le lauréat, il faudra attendre le 13 mai. Comme chaque jour, nous vous proposons de revenir sur un des 11 joueurs nommés. Aujourd'hui, focus sur l'attaquant nigérian de Nice, Terem Mofi, Kylian Tanguy.
À lui seul, Terem Mofi a fait tomber le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en septembre. 2 buts et une passe décisive pour une victoire de Nice 3-2. C'est pour l'instant la seule défaite du club de la capitale en championnat cette saison. De quoi faire perdre sa voix aux commentateurs du match sur l'OGC Nice TV.
Mofi qui se met dans l'axe, la frappe de Mofi ! La frappe de Mofi ! Ah, la frappe de Mofi ! Dans le petit filet de Donnarumma ! La frappe de Mofi ! Ça fait 3 ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa !
L'attaquant nigérian est le meilleur buteur de son équipe qui se bat pour une place européenne. Et avec 11 buts et 2 passes décisives, il est le deuxième joueur africain le plus offensif cette saison. Juste derrière le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang.
Kylian Tanguy, on a mal pour le monsieur qui criait là au
oui,
commentaire.
Oui, oui.
Faut prendre du miel avec de l'eau chaude et peut-être un peu de citron.
Et du curcuma.
Rendez-vous le 2 mai pour savoir si Terem Mofi, en tout cas, sera parmi les 3 finalistes de ce prix Marc-Vivien Foé.
Docteur Olivier Prom, merci beaucoup, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquelroem.
Alors qu'il étudie la contre-proposition d'Israël sur une éventuelle trêve à Gaza, le Hamas diffuse une nouvelle vidéo de 2 otages israéliens toujours détenus dans l'enclave. La guerre entre Israël et le Hamas qui s'invite au Forum économique mondial qui débute aujourd'hui à Riyad en Arabie Saoudite. Pendant ce temps, aux États-Unis, près de 200 manifestants pro-palestiniens ont été interpellés hier sur 3 campus universitaires. Lors de l'évacuation par la police de leur campement, une centaine d'arrestations, notamment à Boston, à la Northeastern University. La direction évoque des insultes antisémites violentes proférées par des manifestants. Une nouvelle attaque massive de missiles russes hier en Ukraine sur les infrastructures énergétiques synthétiques. Des frappes notamment sur 4 centrales thermiques qui ont entraîné des coupures de courant. L'armée ukrainienne a visé de son côté 2 raffineries en Russie avec des drones. Volodymyr Zelensky appelle une nouvelle fois les Occidentaux à livrer le plus rapidement possible des systèmes de défense aérien supplémentaires à son pays. Et puis en France, Emmanuel Macron se dit de nouveau prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne qui pourrait, dit-il, inclure la dissuasion nucléaire. C'est ce qui ressort d'un entretien avec des jeunes Européens publié dans plusieurs journaux après son discours sur l'Europe, jeudi à la Sorbonne, où le président français avait plaidé pour une Europe de la défense crédible aux côtés de l'OTAN. 5h48 en temps universel. Et sur RFI, l'actualité ce matin, notamment marquée par la fin du dialogue national hier au Gabon, la présentation des recommandations finales parmi les mesures les plus importantes proposées par les délégués, notamment un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une fois, des mandats de 5 ans renouvelables à vie pour les autres élus. Sur la présidentielle, parmi les responsables de la transition, seul son chef, Brice Oligui Nguema, pourra se présenter. Quelle suite donner maintenant à ce dialogue et aux fruits de ses travaux? Notre invitée ce matin est la ministre gabonaise de la Communication, porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, au micro de notre envoyé spécial à Libreville, Sébastien Nemeth.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
Quel bilan tirez-vous finalement après quasi un mois de dialogue maintenant ?
Le dialogue a été véritablement inclusif. Nous avons reçu plus de 38 160 contributions. C'est sur la base de ces contributions-là que le travail s'est fait. Et on a eu près de 680 participants de tous milieux. Toutes celles qui ont eu lieu avant étaient des concertations uniquement politiques. Celle-ci a donné plus de place à l'économie et au social. Et elle a eu le plus grand nombre de participants. Même la conférence nationale de 1990 n'avait que 300 participants.
Alors il s'agit là de recommandations. Quelle va être la suite ?
Tout ce qui a été dit, normalement, va être transmis au sectoriel. Et ce qui doit être transformé en loi sera transformé en loi parce qu'il y aura une constituante qui va donc se charger de rédiger une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum. Donc tout ce qui va sortir du dialogue national est appelé à être mis en œuvre dans la mesure du possible. Mais les commissaires qui ont travaillé ont fait en sorte que les résolutions adoptées soient celles qui sont le plus à même d'être mises en œuvre, de sorte qu'il n'y ait pas de résolution adoptée que l'on mette de côté.
Est-ce que ces réformes peuvent être mises en place avant la fin de la transition ou ça va s'étaler dans le temps ?
L'objectif était de travailler à construire le Gabon, pas seulement d'aujourd'hui, ni de demain, ni d'après-demain. On s'inscrit dans le long terme. Les résolutions, certaines pourraient être mises en œuvre là pendant la transition. Mais d'autres non. Tout ce qui a été adopté ne peut pas être mis en œuvre. Déjà là, on est déjà à 8 mois de la transition, donc il reste moins de 2 ans.
Comment expliquez-vous cette décision de suspendre les partis politiques, y compris bien sûr le PDG, et même pour ce parti, de rendre inéligible pour 3 ans ses responsables ?
Lorsqu'il y a un coup de libération, ça veut dire que le régime qui était là n'a pas su prendre le pays en main. Et bien au contraire, il conduisait le pays dans le chaos. On a vu que c'était un régime autoritaire avec des lois vraiment liberticides. On a 2,5 millions de Gabonais sur Terre avec toute la richesse que l'on a eue. Plus de 30% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Gabon, 2,5 millions habitants, 104 partis politiques. Et on sait bien que la majorité de ces partis politiques étaient créés même par le parti au pouvoir pour essayer de faire croire à un semblant de démocratie. Donc, il y a besoin de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, on dissout tout, on suspend tout. Et on a, vous l'avez entendu, ils vont revoir les critères pour créer un parti politique. L'objectif est que vraiment, on ait un climat politique assaini.
Il y a un certain nombre de mesures aussi fortes vis-à-vis de l'immigration, de la préférence nationale. Est-ce que vous avez l'impression que les Gabonais ont perdu leur souveraineté, ont eu le sentiment d'avoir perdu leur souveraineté et veulent la récupérer ?
Il faut que les intérêts du Gabon et des Gabonais soient préservés. Il faut que les Gabonais aient la priorité chez eux. Les Gabonais avaient le sentiment que l'économie, vous l'avez entendu, était plus aux mains des non-Gabonais. Et à un moment donné, cela a été entretenu par l'ancien régime. On a vu l'ancien président être entouré que des personnes qui n'étaient pas gabonaises de souche. Les responsabilités qu'ils ont eues, ils s'en sont servis pour s'en mettre plein les poches au détriment du peuple gabonais. Donc, quand c'est comme ça, parfois les gens, ils adoptent des attitudes pour se protéger. Et ils se disent plus jamais ça. Les Gabonais veulent que leurs intérêts soient prioritaires sur leur propre sol. Et ça, c'est valable dans tous les pays du monde.
Madame la ministre, merci.
La ministre gabonaise de la Communication et porte-parole du gouvernement au micro de Sébastien Nemeth. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de presse est à la une des hebdomadaires, un acteur omniprésent dans les journaux et les hebdos.
Cet acteur, c'est Omar Sy, souvent présenté comme l'une des personnalités préférées des Français. Il est en une du Nouvel Obs et d'Aujourd'hui en France Dimanche. Le héros du film Intouchable et de la série Lupin sort un livre d'entretien intitulé « Viens, on se parle ». Est-il un symbole, lui demande le Nouvel Obs. Il se présente comme fils d'immigrés d'Afrique de l'Ouest, grandit en banlieue, noir et musulman. Si on combine tout ça, ajoute-t-il, cela fait ce cocktail que vous appelez symbole et cela devient politique. Ce sont les gens qui en font quelque chose de politique, je n'y peux rien. Ce qui amène Aujourd'hui en France Dimanche à faire ce commentaire. Omar Sy sait ce qu'il veut dire et surtout ce qu'il ne veut pas dire, parce que sa parole compte, mais qu'elle peut être retenue contre lui, star hexagonale désormais installée aux États-Unis, qui donne son avis sur la France alors qu'il n'y vit plus beaucoup. Est-ce pour ne plus être sans cesse assimilé à une couleur de peau qu'il a établi sa famille aux États-Unis, interroge le Nouvel Obs. C'est surtout lié à mon succès, répond Omar Sy. Je voulais protéger mes enfants. Voilà pourquoi les États-Unis sont devenus un endroit intéressant pour les élever dans l'anonymat.
Même s'il se défend de faire de la politique, Omar Sy ne renonce pas pour autant à tout commentaire.
C'est le cas lorsqu'il est interrogé sur Aya Nakamura, dont la possible participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris a suscité des commentaires désobligeants de la part de l'extrême droite. « Je ne juge rien », assure Omar Sy. « Je fais le constat désolant qu'on en est là en France, qu'en 2024 il y ait encore un débat sur une artiste comme Aya Nakamura, dont je salue le parcours et le grand talent, mon optimisme est mis à rude épreuve. Est-il inquiet de la montée de l'extrême droite en France ?» Je n'ai pas de commentaire à faire, répond l'acteur de 46 ans. Ce serait beaucoup trop long. On verra où en sera la France aux prochaines élections.
Et Omar Sy est également présent dans le journal du dimanche, interpellé dans une tribune.
Interpellé par la journaliste antillaise Christine Kelly, qui s'adresse à lui et assure que le racisme, elle connaît. Mais elle ajoute, la France donne, je crois, sa chance à chacun. Et elle énumère les noms de personnalités connues et reconnues qui ont connu le succès en France, dont Aya Nakamura, se gardant bien toutefois d'évoquer les propos de l'extrême droite à son égard. Revenant à Omar Sy, Christine Kelly Hassen. La France, ceux qui la critiquent sont souvent ceux qui ont réussi, comme s'ils fermaient la porte derrière eux au lieu de montrer la voie. Le racisme d'aujourd'hui, assure aussi la journaliste, c'est celui qui nuit réellement aux personnes dites racisées, celui qui consiste à installer des millions de personnes dans la victimisation. Malgré toutes ces précautions pour éviter les sujets trop politiques, Omar Sy se retrouve donc sur le banc des accusés et se voit même suspecté par le JDD de fournir à la jeunesse racisée un prétexte au ressentiment.
La France donne sa chance à chacun, peut-on donc lire dans le JDD ? La réalité serait toutefois plus complexe, Catherine.
Oui, c'est ce qu'il ressort d'une enquête réalisée par 3 sociologues et intitulée « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », enquête sur la diaspora française musulmane. On estime à près de 200 000 le nombre de musulmans expatriés, nous dit le Nouvel Obs, et tout porte à croire qu'ils seraient en augmentation depuis 2015 à la suite des attentats et de leurs conséquences. Qui sont-ils ? Ils sont souvent nés ici, explique l'hebdomadaire, ont presque tous la nationalité française. Ils sont d'origine variée, mais surtout maghrébine. Ils viennent de la France entière, pas seulement des banlieues. Certains ont des parents qui appartenaient déjà à la classe moyenne et beaucoup d'entre eux pouvaient y aspirer, ayant fait de très bonnes études, mais ils ont fait un autre choix, celui de partir. Pour beaucoup, vivent désormais dans des pays anglophones comme la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis. Pourquoi ont-ils quitté leur pays ? C'est souvent une goutte d'eau qui fait déborder le vase, apprend-on dans cette enquête. Et le plus souvent, le déclic est professionnel. Il est produit par le sentiment de se heurter à un plafond de verre dans la progression au sein de l'entreprise. Parfois, c'est une simple opportunité. Eux qui avaient tout bien fait ne trouvent pas de stage en France, mais on leur répond ailleurs, où ils découvrent une autre manière de vivre, puis trouvent un emploi à la hauteur de leurs qualifications. Et le Nouvel Obs de conclure, qu'en est-il de tous ceux et toutes celles musulmans français qui partagent cette quête respectable d'une vie digne et paisible, qui ont l'impression qu'elle est impossible à vivre ici et qui n'ont pas les moyens de partir.
La revue de presse, Catherine Potet, merci beaucoup. Il est bientôt 6h en temps universel et sur RFI. Avant le retour de l'info, un peu de musique. La chanteuse argentine La Yegros, c'est le Ghanéen Kayoji. Ça s'appelle VO et c'est dans la playlist d'RFI. La Yegros et Kayoji sur RFI. Et le journal à suivre dans 30 secondes. A tout de suite.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
50 ans après la révolution des œillets, nous découvrons des histoires de jeunes filles pleines d'espoir, vent debout contre la dictature de Salazar et les guerres coloniales. Elles reviennent avec courage sur leur jeunesse engagée mais aussi réprimée et partagent leur fierté d'avoir participé à l'avènement de la démocratie au Portugal.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Tout à l'heure sur RFI, 15h10, temps universel.